vos questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Vos questions, nos réponses, un peu spécial, début d'une série d'émissions dédiée à la Journée mondiale Alzheimer qui se tiendra le samedi 21 septembre. Comme chaque année, France Alzheimer et son réseau d'associations se mobilisent avec des actions un petit peu partout en France pour changer le regard sur la maladie. Cette année, rendez-vous un peu spécial suite à la crise de la Covid-19. Pas de village Alzheimer, mais toujours une mobilisation partout, mais aussi sur cette antenne, tout au long du mois de septembre. On reviendra d'ailleurs sur le traumatisme qu'a engendré cette crise sanitaire sans précédent. Proximité, accompagnement et inclusivité sont plus que jamais les piliers de l'association et de cette journée. Dans ce premier épisode, nous allons parler du coût de la maladie. Il est bien réel, il est excluant et source de stress pour les proches de la personne malade. C'est le fameux reste à charge qui doit interpeller les pouvoirs publics. N'hésitez pas à réagir sur ce sujet sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui en ligne avec Brigitte Huon, présidente de France Alzheimer Paris et vice-présidente de l'Union nationale France Alzheimer et maladies apparentées, spécialiste des questions financières liées à la maladie. Bonjour.
Bonjour.
Avec nous également, Martine Bou, présidente de France Alzheimer Essonne. Bonjour.
Bonjour.
Merci à toutes les deux d'être avec nous. Alors pour commencer cette émission, je vais d'abord commencer par cette question qui semble simple peut-être pour vous, mais qui nécessite une explication. Brigitte, le reste à charge, c'est quoi exactement ?
Alors le reste à charge, c'est en vérité tout ce qui est lié à la survenue de la maladie d'Alzheimer, mais qui n'est pas pris en charge ni par la sécurité sociale, ni par personne au fond. Je pense que le mieux, c'est peut-être de vous donner un petit exemple. Pour les malades qui deviennent incontinents, ils sont obligés d'utiliser des protections. Ces protections ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. En réalité, c'est une maladie qui coûte très peu cher à la sécurité sociale, mais qui coûte beaucoup aux familles.
Pour vous, Martine, si vous deviez peut-être apporter votre vision sur ce reste à charge, quel est-il ? C'est ce que vient de dire Brigitte, j'imagine.
Le reste à charge est très important parce que l'on parle toujours des aides de l'État ou des aides de la commune, mais elles sont insuffisantes par rapport à ce que doivent les familles. Il faut voir que quand vous mettez une personne en accueil de jour pour une journée, c'est 55 euros. Et même s'il y a une petite prise en charge par l'État ou par l'APA, elle ne comble pas. Ensuite, le gros problème pour les personnes Alzheimer, c'est non seulement la possibilité donc d'aller dans des structures qui puissent les prendre en charge une journée, voire deux, mais c'est le problème du transport. Le transport est cher et il n'y a pas assez de personnes qui puissent aider les malades à aller d'un endroit à un autre. Il y a des fois des structures qui font les trajets, donc groupés, mais ça coûte 8 euros l'aller, 8 euros le retour. Donc les personnes se retrouvent avec des factures qu'elles ne peuvent plus payer. Et c'est la raison pour laquelle elles restent cloîtrées au domicile.
Alors justement, on va rentrer dans ces aspects bien concrets. Vous parliez des transports, Martine, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais ils sont coûteux, ils sont nécessaires, surtout en milieu rural. Brigitte, combien cela coûte de garder un malade chez soi et en EHPAD ?
Alors nous avons fait une enquête il y a quelques années et le reste en charge au domicile a été estimé à 1200 euros par mois. Hein, c'est-à-dire tous les frais dont vient de parler Martine, les transports, le coût de l'accueil de jour non pris en charge dans le cadre de l'APA. Et si on songe aux EHPAD, le reste à charge est beaucoup plus élevé puisque le coût moyen d'un EHPAD est de 2500 euros. Alors je parle d'un coût moyen plutôt orienté province parce qu'en région parisienne, c'est encore plus élevé. Là aussi, pris en charge un petit peu dans le cadre de l'APA, mais c'est tout. Hein. Donc il y a un coût énorme pour les familles.
Pourquoi est-ce aussi cher, cette prise en charge, qu'elle soit à domicile ou en EHPAD ? Comment ça se fait ?
En EHPAD, il faut dire que ce sont des établissements privés. Ce sont des groupes qui sont privés. Et c'est vrai ce que dit Madame Huon, les coûts pour une EHPAD, c'est 2500, voire 3000. Mais quand on dit il y a l'APA, en fin de compte, il y a une incompréhension parce que l'APA n'est donné que pour l'autonomie, c'est-à-dire que pour le GIR, mais pas pour le prix des chambres. Une chambre par jour dans un EHPAD, c'est environ de 90 à 100 euros par jour. Et sur cette partie, il n'y a pas de prise en charge de l'APA. L'APA, elle est donnée que sur le manque d'autonomie. Et encore, elle n'est pas prise en entier. Et puis ensuite, ce qu'il faut voir également, c'est que lorsque la personne est en établissement, il faut quand même compter qu'elle est obligée de prendre une mutuelle. Il faut voir pour l'allocation du linge, si la famille ne lave pas le linge. Il faut voir également qu'il va y avoir la pédicure. Il faut prévoir aussi ses produits de soins. Madame Lyon a parlé donc des protections, mais le dentifrice, tous les produits de soins sont pris en charge encore par le résident. Il va y avoir également, il faut penser à l'assurance. Il faut que la personne soit assurée, c'est encore à la charge donc du résident. Si elle veut un téléphone mobile. S'il y a la télévision, il va y avoir encore la télévision. Si bien que au prix de l'EHPAD s'ajoutent encore des frais. Et quand on sait que les retraites ne sont pas énormes, surtout pour les personnes de nos jours, elles ont des petites retraites. Elles n'ont pas toujours travaillé, ces femmes-là. Elles ont été très longtemps au foyer. Elles ont une petite partie donc de reversement de leur mari, celui-ci est décédé. Donc elles se retrouvent avec une retraite d'environ 1000 euros, 1200, 1300 euros. Et le reste, comment qu'elles font pour payer? Si elles ont un bien, c'est la vente. Et quand il y a la vente, ce qui est quand même anormal, c'est parce que quand il n'y a pas de vente du bien, il peut y avoir encore une allocation logement qui peut leur être retirée. Si on voit qu'elles ont un bien, même s'il n'est pas énorme, on retire cette allocation logement. Donc elles ont encore moins d'aide.
Brigitte, on constate qu'il y a bien sûr donc les coûts de l'EHPAD ou de garder la personne chez soi, plus tous les coûts annexes, et c'est important d'en parler parce qu'ils se rajoutent finalement à une somme déjà bien conséquente. Si on doit faire un point clair, quelles sont les aides publiques financières qui existent pour aider les familles, très concrètement?
Alors, les aides publiques qui existent, elles sont tragiquement peu nombreuses. L'essentiel étant l'allocation personnalisée autonomie, qui est versée donc soit au domicile, soit pour les personnes qui sont en institution à l'institution, et qui varie entre suivant le groupe de dépendance, entre on va dire 600 euros et 1700 euros. Pour le GIR 1, qui est le GIR le plus élevé, des personnes les plus dépendantes, le reste à charge reste très, très conséquent. Et pour les familles qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas de biens et qui ont des ressources modestes, elles sont obligées de faire appel à l'aide sociale départementale. Et là, c'est encore un autre problème, puisque le département va aider les familles à payer leur EHPAD, Mais elle va faire participer toute la famille, c'est-à-dire la personne elle-même qui va payer à hauteur de 90% de ses ressources, éventuellement le conjoint en fonction d'un pourcentage, et si c'est pas encore suffisant pour combler le prix de journée, on fait appel aux enfants et aux petits-enfants, c'est l'obligation alimentaire. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez dramatique parce que de plus en plus de personnes sont obligées d'y avoir recours. Ça met en péril non seulement le couple, mais aussi les finances de toute la famille. Une famille modeste qui est obligée de verser 50 ou 100 euros pour payer la maison de retraite de la grand-mère, ça crée vraiment des problèmes familiaux.
Et on a justement pas mal de témoignages qui vont en ce sens. Je vais lire notamment celui de Josette. « Mon mari souffre de la maladie depuis 6 ans déjà. Je ne peux plus m'en occuper. Je l'ai placé en EHPAD, mais pour cela, j'ai dû prendre un crédit. C'est affreux et angoissant. Et à la fois, je n'avais pas le choix. » Martine, c'est quelque chose qui vous parle peut-être d'entendre
ça? Oui. Moi, d'avoir été obligée de vendre la maison de ma mère, Donc déjà, une mise en EHPAD, c'est psychologiquement très difficile, parce qu'on la dépossède quand même un peu de sa vie, de son autonomie. On sait qu'on va la mettre dans une institution, elle va vivre en groupe. Et puis ensuite, on la dépossède donc de sa maison, de son bien où elle a eu tant de mal donc à construire cette maison. Et puis tout l'argent va aller donc dans l'EHPAD. Ce qui lui reste à charge par mois, c'est 2000 euros. Ça veut dire que tous les mois, 2000 euros vont partir pour l'EHPAD. C'est vrai que c'est un déchirement. Parce qu'en même temps, c'est tous nos souvenirs. Quand j'ai vendu cette maison, c'était moi, tous mes souvenirs qui sont partis avec la vente de cette maison. Et en plus, je ne pouvais pas dire à maman, je vends ta maison pour que tu ailles en EHPAD. Déjà, elle n'était pas très heureuse d'y aller. Mais si en plus, je lui disais, j'ai vendu ta maison, quand je vois des objets donc, que j'ai gardés, et à chaque fois, c'est un pincement au cœur, bien sûr. J'y pense à ça, à cette somme qui part comme ça dans une EHPAD et que je me dis pourquoi la société ne vient pas en aide beaucoup plus aux personnes âgées.
C'est effectivement criant de vérité ce que vous êtes en train de raconter, Martine. Brigitte, est-ce qu'on peut penser, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, que forcément tous ces coûts, alors je parle notamment de placer les malades en EHPAD, est-ce que ça engendre un retard dans la prise en charge ?
Très certainement, parce que les familles qui savent qu'elles vont avoir à débourser de telles sommes retardent le plus possible l'entrée en institution. Elles attendent le dernier moment, au détriment de leur santé, au détriment parfois de la personne malade aussi, parce que une famille qui est épuisée ne peut plus s'occuper de la même façon de son parent, et même parfois de façon beaucoup plus dramatique. Certaines familles gardent le parent à domicile. On a l'habitude de dire que personne ne veut aller en EHPAD, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a pas un vrai choix. Disons que s'il y avait un vrai choix équitable sur le plan financier entre le domicile et l'institution, peut-être que les familles mettraient plus souvent leurs parents en institution. Mais là, il n'y a pas un vrai choix quand on entend ce que dit Martine. Je voulais ajouter faire une petite précision, les EHPAD, elles sont privées, mais les EHPAD publiques, c'est la même chose, elles sont payantes aussi. Hein. Donc, quel que soit le système privé-public, les EHPAD sont toutes payantes.
Et c'est important de le préciser, justement. Est-ce que vous pensez, au vu de ce que vous nous dites toutes les deux, est-ce qu'on peut parler d'inégalité face à la maladie, puisque j'imagine que des foyers vont pouvoir payer ce reste à charge,
ah oui.
D'autres non. Comment répondre à ce genre de choses ?
Ah oui, il y a absolument une inégalité. Hein. Parce qu'une personne qui n'a pas de bien, elle se dit « je ne peux pas aller en EHPAD ». Et puis même une personne, donc un couple qui a une maison, si on vend la maison pour mettre l'un des deux en EHPAD, où va aller l'autre ? C'est ça le problème. C'est que des fois, on ne peut pas se permettre de vendre la maison parce que le partenaire, il va aller où ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Et du coup, il va garder donc la personne malade au domicile, il va s'épuiser, tout revient à une question de finance. Du coup, le retard donc dans la prise en charge, en plus étant âgée, elle va pas sortir cette personne, elle va pas avoir les soins appropriés, et du coup, il va y avoir un enfermement de ce couple, c'est très douloureux.
Je voulais ajouter quelque chose aussi par rapport à l'entrée en EHPAD, c'est que quelqu'un qui entre en EHPAD, Martine parlait de l'exemple d'un couple, ce couple va continuer, même si l'un des deux est en EHPAD qui lui coûte de l'argent, à payer des impôts de la même façon. Et là aussi, par rapport aux aides qui ont été mises en place au domicile, c'est-à-dire une exonération des cotisations pour emploi d'une aide à domicile, au niveau des EHPAD, la fiscalité est la même. Et là aussi, donc, il faut vraiment voir une réforme d'ensemble et du financement des EHPAD et puis des à côté comme la fiscalité. Ça fait 30 ans hein, qu'on parle de la fameuse cinquième branche sécurité sociale. France Alzheimer milite depuis le début pour ça, d'une véritable prestation solidaire nationale qui permettrait aux familles de moins mal vivre, parce qu'on a l'habitude de dire que c'est la double peine, hein, à la fois d'avoir une personne malade, qu'à un moment donné, on est obligé de mettre dans une institution, et en plus qui a un impact sur les finances de la famille et comme je disais tout à l'heure, parfois sur deux générations, puisque si les enfants participent, c'est aussi une tranche d'âge qui s'appauvrit du fait de cette entrée en institution.
J'allais justement en parler de cette fameuse cinquième branche de la sécurité sociale. C'est plus que jamais, en ce mois de septembre, eh bien, au cœur de l'actualité. Martine, pour vous, ça représente un espoir que les pouvoirs publics s'intéressent enfin, si j'ose dire, à une vraie problématique ?
Bien sûr que c'est un espoir. Je crois que les pouvoirs publics sont de plus en plus sollicités et prennent conscience justement de l'ampleur de ce problème. Et je pense que véritablement, il va y avoir donc un élan pour les personnes âgées et pour justement qu'ils puissent bénéficier de ressources pour pouvoir qu'ils soient mieux pris en charge. Quand je vais voir dans les mairies, quand je vais au département, il y a quand même une écoute qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Même je vois aussi avec nos partenaires, hein, on est tous ensemble pour aller dans le même sens et de dire il faut absolument se réunir, faire des conférences pour essayer d'influencer l'État et pour qu'ils viennent en aide aux personnes âgées qui sont de plus en plus nombreux, ils sont de plus en plus dépendants, et au point de vue finance, leur finance a beaucoup baissé.
Pour terminer cette émission, il y a beaucoup de familles qui nous écoutent, qui nous ont écoutés pendant toute la crise du Covid-19, qui continuent de nous écouter en ce moment, qui mettent beaucoup d'espoir dans les agissements, dans les actions de l'association, et qui ont besoin aussi de cette parole. Brigitte, qu'est-ce qu'on peut dire à ces familles ? On parle là en ce moment du reste à charge et c'est quand même une vraie problématique. Que leur dire pour la suite ?
Soutenez l'association qui est l'intermédiaire en ce moment avec d'autres associations pour faire remonter ce problème. Pendant la crise du Covid, l'association n'a pas beaucoup parlé des malades d'Alzheimer et pourtant les familles elles ont vraiment été mises à dure épreuve du fait du retrait un peu des services de soins à domicile, parfois souhaitées par elles, parce qu'elles avaient peur des conséquences des contacts. Et puis, intervenez auprès des maires, auprès des élus, auprès des députés. C'est eux. Il y a quelques députés qui sont sensibilisés au problème. C'est vraiment eux qui vont pouvoir faire bouger les choses. Mais je suis comme Martine, là j'ai un petit peu d'espoir. Je pense que cette malheureuse crise de la Covid a vraiment ébranlé tout le monde et ce qu'on a vu dans les EHPAD fait réfléchir certains.
Et on espère que ça prendra encore tout son sens pendant cette fin d'année. Martine, le mot de la fin, vous aussi, pour les familles qui nous écoutent ?
Il faut qu'elles gardent espoir, il faut justement qu'elles nous soutiennent, qu'elles se rapprochent de France Alzheimer pour qu'on les conseille, qu'on leur dise qu'est-ce qu'on peut faire pour les soutenir et qu'elles aussi, elles nous disent ce qu'elles veulent, ce qu'elles ont besoin pour qu'on puisse le faire remonter au niveau du département et le département donc au niveau de l'État. On a besoin donc des familles de leur dire, de leur ressenti pour qu'on puisse nous transmettre leurs besoins et leurs demandes. Voilà, c'est France Alzheimer, donc, qui grande association pour les aidants et qui va pouvoir essayer, grâce à eux, de faire un petit pas pour les aider.
Grande association pour une grande cause nationale.
Une grande cause.
Merci à toutes les deux de nous avoir accompagnées pour cette émission. Prochain rendez-vous dédié à la journée mondiale Alzheimer, c'est dès mardi avec le rôle des médecins traitants dans la maladie. Et puis un autre rendez-vous, c'est dans une semaine pour une nouvelle émission avec vos témoignages, toujours autour de cette journée mondiale qui se déroule, je vous le rappelle, le 21 septembre. Continuez, chers auditeurs, de nous écrire, de nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur la plateforme de la radio ou alors sur la page Facebook de l'association. Et puis, comme toujours, vous pouvez réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.francealzheimer.org. À très bientôt et prenez soin de vous.
Vos questions, nos réponses.